de Lampedusa à Calais, une émission en quatre parties. À la bande son, In Floods and Droughts, morceau choisi de 52 Commercial Road. Et maintenant, la première partie sur Lampedusa.
Bah, salut tout le monde.
Salut.
Eh ben, je suis avec... tu peux te présenter ?
Philippe.
Toi, c'est comment ?
Lucie
et Camille, moi-même, autour de cette table. On est à Calais, dans un endroit top secret. Et on a envie de parler un petit peu de deux choses pendant cette petite heure et demie à venir. On a envie de parler de Lampedusa, parce que Philippe, tu reviens de vacances à Lampedusa.
C'était pas tout à fait des vacances, mais je reviens de Lampedusa, oui.
D'accord. Et puis, bah, après, on fera un petit point sur la situation à Calais, un petit peu ce qu'on en pense en ce moment, et un petit peu ce à quoi on va se préparer dans les temps à venir, et puis voilà. Et puis, avec peut-être que quelques interludes musicaux entre tout ça pour alléger cette discussion.
Tu peux dire interlude musical.
Interlude musical.
C'est féminin.
Ah, c'est féminin. Eh ben, on fera des interludes musicales dans ce cas-là. Eh ben, du coup, on commence discuter un petit peu, te poser des questions, Philippe. Tu reviens juste de Lampedusa. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Lampedusa ?
Il y avait un festival, en fait, qui correspondait au un an après le naufrage du 3 octobre 2013. Donc un bateau chargé d'exilés qui coule tout près de l'île. Et une partie des gens qui étaient à bord, donc qui meurent noyés. Et ça a été l'un des trois naufrages consécutifs. En fait, il y a eu 500 morts en l'espace d'une semaine ou 10 jours. Et ça a fait ressortir un peu dans les médias la situation qui est quotidienne en Méditerranée. C'est-à-dire comment bloque l'entrée des gens sur le territoire européen. Ils essayent d'entrer par les moyens qu'ils trouvent, entre autres en s'embarquant sur des bateaux en Libye, et souvent sur des bateaux qui ne sont pas en bon état et en étant beaucoup trop nombreux sur ces bateaux-là. Donc du coup, ça avait été un événement hyper médiatisé. Ça faisait 2 ans qu'on parlait beaucoup moins de Lampedusa. On en avait parlé en 2011 quand il y a eu la révolution en Tunisie, des Tunisiens qui arrivent en grand nombre sur l'île, le gouvernement italien qui ne transfère pas les gens au fur et à mesure de leur arrivée sur le continent. Donc Lampedusa, c'est une toute petite île de 20 km², 6000 habitants. Une fois qu'il y a eu 10 000 personnes qui étaient arrivées en bateau sur l'île, bah, ça commence à se voir, surtout en laissant les gens à la rue, en ne les accueillant pas, quoi. Donc il y avait eu un peu une mise en scène de l'invasion du territoire européen, réduite à une toute petite île où effectivement on bloque les gens pour qu'ils finissent par faire masse. Donc ça c'était 2011, et puis 2013, ben, on reparle de Lampedusa à propos de ce naufrage. Il se trouve que ça tombe un peu au même moment qu'un jugement de la Cour européenne des droits de l'homme qui condamne l'Italie, parce que la pratique des Italiens était de choper les bateaux en mer et de les refouler vers la Libye, un pays qui n'assure absolument pas la sécurité des gens, bien au contraire. Donc ils les refoulaient dans une situation où ils risquaient d'être arrêtés, détenus dans des centres de rétention, obligés de travailler pour rien, torturés, etc. Donc la Cour européenne des droits de l'homme a dit ça suffit, donc l'Italie se retrouvait dans l'obligation de ne plus refouler les gens. Et puis avec ce naufrage médiatisé, l'Italie met en place une opération avec la marine, des bateaux de la marine, qui vont chercher les gens jusque dans les eaux internationales, et parfois jusque dans les eaux libyennes, et qui les ramènent dans le sud de l'Italie. Du coup, là, il y a un problème pour les autorités italiennes, c'est le règlement européen Dublin 3 maintenant, qui dit que, de manière générale, alors il y a d'autres critères, mais de manière générale, c'est le pays d'entrée dans l'Union européenne qui est responsable des demandes d'asile. Donc du coup, si les autorités italiennes ramènent tout le monde en Italie, ils n'ont pas vraiment envie d'accueillir les gens. Donc ils ont arrêté de prendre les empreintes digitales, qui étaient la preuve de leur passage par l'Italie.
Et ça, c'était quand ?
Ça, c'était il y a un an.
Il y a un an,
ouais. Donc du coup, les gens se retrouvaient libérés au bout de quelques jours et puis allaient dans le pays de l'Europe de leur choix pour y demander l'asile. Donc on a eu une situation pas formidable parce que d'une part, il y a quand même, malgré les opérations de sauvetage, il y a quand même eu pas mal de morts. Ça reste quand même une opération ambiguë. C'est pas des secouristes, c'est la marine nationale qui fait ça. Donc on est quand même aussi dans une opération de surveillance de la frontière, etc. Mais on a quand même eu une espèce de truc où plein de gens ont été ramenés en Europe et ont pu se disperser dans l'Europe pour essayer de trouver un pays qui les accueille. Donc, qui était moins pire que la situation habituelle. En tout cas, toujours est-il que un an après ce naufrage, il y a d'une part, il y avait une décision de faire des commémorations avec des survivants, avec des membres des familles, etc. Et puis autour de cet événement, de faire un festival avec le choix qui est du théâtre, de la musique, etc. Quelque chose qui permette d'impliquer la population locale. Et il y a notamment une troupe de théâtre qui a bossé avec la population quelques mois en amont pour préparer des choses. Donc vraiment l'idée de faire quelque chose qui soit ancré localement. Et puis d'autre part, d'avoir des temps de discussion sur les questions migratoires, mais aussi sur les questions de mondialisation, de démocratie, etc. Enfin, un temps de débat qui montre que pour l'île, il n'y a pas simplement la question migratoire, quoi. C'est à la fois à chaque fois qu'on parle de Lampedusa dans les médias, c'est à cause de ça. Mais bon, c'est aussi une île qui est très loin des côtes italiennes où il n'y a pas un hôpital, donc vous êtes un peu gravement malade, on doit vous rapatrier en Sicile, quoi. Qui est une île traditionnellement assez pauvre, qui vit de la pêche, où le tourisme se développe, un tourisme plutôt assez bien intégré en fait dans le tissu, voilà, mais qui reste une terre assez éloignée du reste et qui a d'autres questionnements que proprement les questions de gens qui passent sur leur parcours migratoire, quoi. Donc il y avait le choix de deux temps de débat, deux journées de débat, en fait, une sur l'immigration et les politiques migratoires, et puis l'autre sur des questions plus larges de
Plus large parce que
modèle de développement, de mondialisation, de démocratie, de bien commun, de un peu toutes ces problématiques qui touchent un
Juste
peu tout le monde, quoi.
pour qu'on se rende compte, Lampedusa, c'est à quelle distance la Sicile? Parce que c'est vrai qu'on dit c'est donc l'Italie, Lampedusa, mais il me semble que c'est vraiment très très loin, non? De
Oui,
la Sicile, c'est en termes
c'est
de
plus au
kilomètres.
sud, c'est plus au sud que Tunis, c'est au sud de Malte, c'est plus près de Tripoli ou Tunis que de Palerme.
Donc c'est
Donc
vraiment
vraiment,
isolé, quoi.
c'est complètement isolé, c'est vraiment une terre italienne qui est tout près de l'Afrique. Ouais.
Et là, cette opération que tu disais, qui a été un peu poussée par en fait, l'action de la Cour européenne des droits de l'homme, c'était Mare Nostrum.
Oui,
D'accord.
c'est encore Mare Nostrum
C'est
pour
encore.
un temps indéterminé, mais court. D'une part, l'Italie a dit qu'elle voulait arrêter parce que ça coûte cher. Et puis l'Union européenne, du coup, a dit chouette, on va mettre Frontex à la place. Et du coup, les soucis avec Frontex, c'est d'une part, c'est une agence de surveillance des frontières. Et ils ont dit et répété que leur mission, c'était ça, et que ce n'était pas de sauver les gens en mer. Ils vont rester dans les eaux territoriales italiennes, ils ne vont pas se porter au-devant des bateaux en difficulté, alors que la marine italienne le faisait dans le cadre de Mare Nostrum. Et puis, c'est des bateaux généralement de garde-côtes, de garde-frontières, etc. C'est-à-dire des bateaux beaucoup plus petits, qui ne seront pas forcément en capacité de ramener des groupes de plusieurs centaines de personnes jusqu'en Sicile. D'où ce qu'on a commencé à voir pendant qu'on était à Lampedusa, c'est qu'il y a des travaux pour remettre en état le centre de rétention sur place, pour pouvoir à nouveau accueillir, entre guillemets, des gens. Donc probablement une partie des gens qui seront interceptés en mer seront ramenés à Lampedusa.
Parce que Lampedusa, ouais, sera encore choisi en fait par Frontex pour faire une espèce de zone tampon en fait entre ce qu'ils arrivent à récupérer comme gens dans cette zone. Parce que moi, est-ce que ma première question, c'est est-ce que Lampedusa va servir à ça, à ramasser tous les gens en Méditerranée et les mettre là en attendant qu'ils soient on sait pas quoi, soit retourner en Italie pour être expulsés dans leur pays, ou je sais pas, peut-être tu peux nous dire un peu plus. Et la deuxième question, c'est Est-ce que moi je me rends pas compte comment Frontex où est-ce que va se définir la limite en fait où Frontex va s'arrêter en Méditerranée? Est-ce que Frontex va aller au proche des côtes libyennes pour repousser les bateaux? Ou est-ce que Frontex va se mettre à quelque part en plein milieu de la Méditerranée pour dire à partir d'ici, on laisse plus passer, mais ce qu'il y a 150 mètres devant nous, c'est plus notre affaire?
Ben, c'est plutôt la deuxième possibilité. C'est-à-dire Frontex est concerné comme l'Italie par le fait que le refoulement en mer est interdit, à la frontière terrestre aussi d'ailleurs, c'est-à-dire quelqu'un entre sur le territoire, on est censé examiner sa situation individuelle, voir s'il n'a pas besoin d'une protection, s'il ne veut pas demander l'asile, mais surtout s'il a besoin d'une protection. C'est-à-dire normalement l'évaluation, c'est pas que quelqu'un va dire asile, asile, asile. C'est qu'on va avoir un entretien avec lui, et si on détecte dans son récit et dans ses motivations que peut-être cette personne relève de l'asile, dans ce cas-là, on entre dans un circuit qui est l'admission sur le territoire pour pouvoir faire une demande d'asile. Donc, et ça, pratiquement, c'est quand même compliqué de le faire en pleine mer quand on intercepte un bateau. Donc ça suppose qu'on ramène tout le monde et que le tri, entre guillemets, il se fasse quelque part à terre. Donc le refoulement, simplement dire, voilà, on a intercepté un bateau, on va le ramener vers les côtes libyennes. Non, ça c'est interdit, que ce soit Frontex ou que ce soit la marine italienne. A priori, en étant sur une situation hyper médiatisée, hyper surveillée comme ça, je vois pas trop l'intérêt de Frontex de refouler vers la Libye. Enfin, ce serait dénoncé assez vite, du coup, ils se trouveraient en porte-à-faux. Par contre, effectivement, leur mission, c'est de surveillance de la frontière. Alors, le droit de la mer s'applique aux bateaux de Frontex comme aux autres. C'est-à-dire s'ils sont à proximité d'une embarcation qui est en difficulté, ils ont l'obligation de lui porter secours. Après, ce sera des bateaux plus petits que ceux de la marine italienne, donc avec moins de possibilités de prendre les gens qui seront sur le bateau en danger, etc. Et de les emmener loin. Donc c'est la première difficulté. Donc loin, ça peut être la Sicile, près, ça peut être Lampedusa dans un certain nombre de cas. On est dans une zone compliquée parce qu'il y a des eaux territoriales italiennes, des eaux territoriales maltaises, des eaux territoriales italiennes. Parce que Malte est entre Lampedusa, qui est en Italie, et la Sicile, en fait. On a des politiques de sauvetage qui sont différentes entre Malte et l'Italie. On a des zones où les zones de secours, en fait, se recoupent. Donc on ne sait pas trop si c'est les Italiens, si c'est les Maltais qui doivent porter secours ou pas. Alors de temps en temps, ils se renvoient la balle comme ça pendant quelques heures, et puis on a un bateau qui coule. Ça s'est passé en octobre 2013 aussi. Donc voilà, on est dans cette zone un peu compliquée, mais Frontex, effectivement, sa mission, c'est d'être à la limite des eaux territoriales pour surveiller. Et surveiller, ça on l'a déjà rencontré dans le passé, ça veut dire un bateau d'exilé qui est dans les eaux internationales, qui à un moment donné aperçoit un bateau de garde-côte à l'horizon, et qui du coup va attendre la nuit, va se détourner pour pas se faire choper, etc. Surtout si on sait que derrière, il y a le risque de renvoi, il y a le risque de prise des empreintes digitales, etc., quoi. C'est-à-dire qu'on a été dans une logique quand même où les gens savaient que s'ils étaient attrapés par la marine italienne, il n'y avait pas de risque, on allait les ramener à terre, et puis ensuite ils pourraient aller ailleurs en Europe. S'ils sont ramenés en Italie, mis dans un centre de rétention, et contraints soit de demander l'asile, soit ils se font renvoyer. Du coup, leur attitude par rapport à ces bateaux qu'ils vont apercevoir à l'horizon, ce ne sera pas des bateaux pour les sauver, ça va être des obstacles sur leur parcours. Donc, ils vont réagir différemment. Donc, il y aura une mise en danger qui sera supplémentaire.
Moi, ce que
Effectivement.
je comprends pas, c'est comment l'Italie, en fait, parce que au moment où elle a dit on prend plus les empreintes, on ramène les gens, on peut plus prendre les empreintes, il y avait un truc de capacité, il y avait trop de monde, je sais pas, les centres de rétention devaient être pleins, enfin, il y avait un truc où ils pouvaient plus gérer, et puis c'était un cri d'alarme à toute l'Europe en général pour dire il faut qu'on gère ça ensemble. Sauf que là, bah, ils ont l'air d'être entendus. En plus, c'est les Italiens qui commandent, enfin, qui sont à la présidence de l'Union européenne là, cette année, je crois. Et bah, du coup, on va mettre Frontex en place. Mais si Frontex se remet en place, c'est pour remettre ce système où dès que les gens vont arriver en Italie, bah, ils vont être contraints soit de demander l'asile, soit de laisser des empreintes.
Tout à fait, mais il y a un
Donc en
certain
fait,
nombre de
ils sont.
gouvernements européens qui n'étaient pas contents du tout que l'Italie prenne plus les empreintes, notamment le gouvernement britannique, le gouvernement allemand et le gouvernement français, qu'on remercie infiniment pour sa solidarité vis-à-vis des autres pays européens et sa capacité d'accueillir les réfugiés. Donc, qui ont fait pression sur l'Italie, et la Commission européenne a menacé l'Italie d'une amende pour ne pas respecter la règle qui était d'enregistrer les gens qui arrivaient sur son sol, quoi. Donc, du coup, l'Italie a fait marche arrière.
Ouais.
Va reprendre l'enregistrement des empreintes digitales, et du coup l'Italie se retrouve piégée, quoi.
D'accord.
Parce que d'un côté, effectivement, il y a le coût financier de Mare Nostrum qui va plus tomber, donc ils vont faire des économies, mais par contre ils vont se retrouver avec les demandeurs d'asile, alors qu'il n'y a pas de capacité d'hébergement, alors qu'il n'y a pas de programme d'insertion pour les gens qui sont reconnus réfugiés, etc., quoi.
Est-ce que moi j'ai entendu parler de d'une dotation pour des particuliers, des citoyens italiens qui accueilleraient des demandeurs d'asile chez eux, genre on leur filerait 30 euros par mois ou par jour, je sais plus. T'as pas entendu parler de ça?
J'ai pas entendu parler de ça. Après c'est c'est pas forcément plus idiot qu'autre chose.
Ouais.
En fait, en termes de logique, si les gens le font pas uniquement pour le fric, mais sont aussi dans une démarche quelque part. Après tout, une famille d'accueil, ça s'entend pour un gamin, pourquoi pas pour un adulte ou une famille. Et en termes de, bah, d'apprentissage de la langue, de tisser du lien dans la société italienne, c'est peut-être mieux de se retrouver dans une famille que de se retrouver dans un centre pour demandeurs d'asile à 500 étrangers qui se retrouvent entre eux, quoi.
Ouais.
Pourquoi pas ? Après, c'est sûr que c'est plus une logique d'économie financière, à mon avis, qu'une logique d'accueil. Mais...
Ouais.
Parce qu'il y a quand même le problème de l'accompagnement juridique de la personne en demande d'asile pour tout ce qui est démarches administratives, accès aux droits, préparation des entretiens pendant la demande d'asile, recours éventuel, etc. Enfin, il y a quand même un peu de travail d'accompagnement que du coup, une famille n'est pas forcément équipée pour faire.
Est-ce que, du coup, là, pour reprendre un peu sur... sur Lampedusa, sur ce festival, est-ce qu'il y avait des associations italiennes? Tu peux nous dire un petit peu qui s'est retrouvé sur ce festival, en fait?
Dans les organisateurs, il y avait Arci, qui est une grosse fédération d'associations, en fait, plutôt éducation populaire, un peu comme serait la Ligue dans l'enseignement en France, par exemple, un gros truc, mais quand même plus ancré à gauche. Donc ayant des positions par rapport aux questions de migration, par rapport à la Palestine, par rapport à etc. Mais en même temps un gros truc quand même en termes de format, avec plein d'assos sur tout le territoire, en fait. Il y a le comité du 3 octobre, donc qui s'est créé suite au naufrage pour demander à ce qui bah, d'une part, il y a tout l'aspect identifier les personnes qui sont mortes et informer les familles. Il y a la demande qui, du coup, a été plus ou moins acceptée d'une journée de commémoration. Et puis, identifier les responsabilités dans les naufrages qui ont eu lieu, en fait, dans cette période-là, puisqu'il n'y a pas que celui-là, quoi. Et que, notamment, il y a celui du 11 octobre, où, effectivement... les autorités italiennes, il y a un bateau qui est à 11h du matin, dit on coule, et on a les secours qui arrivent à 19h ou 20h, parce que les autorités italiennes et maltaises se sont renvoyées la balle. Il y avait un bateau de la marine italienne pas loin, qui n'est pas intervenu, à qui on n'a pas donné l'ordre d'intervenir, etc. Enfin, voilà, on a laissé 200 personnes se noyer, simplement parce que les Maltais, ça les faisait chier, les Italiens, ils n'avaient pas envie, quoi. Donc il y a quand même des problèmes de responsabilité à un moment donné à établir, et les démarches juridiques, en fait, pour et judiciaires pour établir des responsabilités, ça veut aussi dire qu'on crée des précédents quand les autorités font pas ce qu'elles devraient faire en termes de secours.
Et ça, vous en avez reparlé pendant ce festival, je sais pas s'il y a des gens qui ont mené des actions en justice, s'il y a des
ouais, il y avait différents ateliers, en fait. Il y a eu alors il y avait des ateliers dans le programme et puis il y avait des ateliers off.
Ouais.
Notamment il y a le comité de pilotage de Boat for People, qui était une opération qui a eu lieu en 2012 avec un bateau qui avait circulé sur la côte italienne, qui était passé en Tunisie. Ensuite avec tout un programme de rencontres, de débats, etc. Et puis un peu de médiatisation autour de la situation en Méditerranée. Et puis l'idée de créer justement du lien entre associations européennes, principalement italiennes, et nord-africaines, principalement tunisiennes. Donc ils ont fait un peu le point, sachant que dans les suites de Boat for People, il y a une action qui s'appelle Watch the Med, qui consiste à surveiller ce qui se passe, là où sont les bateaux, là où il y a des incidents, là où il y a besoin de secours, etc. Et il y a un téléphone en fait d'alarme, ligne téléphonique qui a été ouverte tout récemment, là ce mois-ci. Avec l'idée qu'un bateau qui est en difficulté, d'abord appelle les services de secours officiels, parce que c'est eux qui ont les moyens de porter secours, mais ensuite passe un deuxième coup de téléphone à cette ligne-là pour dire voilà, on est à tel endroit, on a appelé les secours à telle heure, on a telle difficulté, pour qu'ensuite il y ait des militants qui suivent le déclenchement ou pas des secours. Et s'il n'y a pas de déclenchement des secours, ben commence à faire du bruit au niveau médiatique, interpellation des autorités, etc., quoi. Donc il y a un peu ce genre de choses. Il y a eu aussi des débats, hein, effectivement, sur tout ce qui est comment éviter les morts, etc. Et sur la politique européenne, d'accueil ou de non-accueil. Voilà, quoi.
Et il y avait... Pardon.
Ouais, tu parlais de contradiction, en fait,
Ouais, ouais, ouais.
dans...
Il y a un peu deux visions qui ne sont pas forcément contradictoires si on raisonne en termes de temporalité, mais qui peuvent l'être. Voilà. Il y en a une qui est de dire les politiques européennes sont ce qu'elles sont, et on va essayer à la marge de rogner, parce que c'est important, parce qu'il y a des gens qui meurent et qu'il faut qu'on essaie d'arrêter ça. Et puis il y a une vision qui est de se dire notre capacité à influer sur les politiques européennes est quand même assez mineure pour l'instant. Donc il faut qu'on travaille beaucoup plus sur poser le débat avec plus de champs et qu'on soit plus sur des concepts. Quelles autres politiques fondées sur la liberté de circulation on peut mettre en place, on peut proposer, comment on travaille là-dessus. Après, on peut en discuter, sauf qu'on s'est trouvé au moment du festival avec le fait que la journée de commémoration du 3 octobre, qui devait se faire avec des rescapés et des familles, les pouvoirs publics se sont invités et ont été invités. Donc on a eu le président du Parlement européen, on a eu la présidente du Parlement portugais, on a eu des officiels du gouvernement italien qui sont venus et concrètement, premier événement de la journée de commémoration, ça a été une file de bateaux de garde-côte qui vont à l'endroit du naufrage, qui envoient des plongeurs mettre une stèle en bas dans l'eau, on jette des fleurs dessus, etc. Avec un bateau pour les officiels, un bateau pour les journalistes et un bateau pour les rescapés et familles. Voilà, c'est. Oui, ça, on peut trouver ça de mauvais goût, effectivement. Enfin, c'était un peu, voilà, la récupération. Maintenant, c'est la commémoration officielle. On regrette, c'est pas bien ce qui s'est passé. C'est vraiment triste, c'est dramatique.
Puis là, tout le monde était à l'heure, quoi.
Et puis là, tout le monde était à l'heure, oui, effectivement. Et puis, c'est en complet décalage avec les décisions qui se prennent au niveau européen en même temps. C'est-à-dire, on arrête Mare Nostrum, on met Frontex à la place. Les pressions sur l'Italie pour reprendre les empreintes digitales, la réouverture du centre de rétention sur l'île de Lampedusa. Voilà quoi. Il y a tout un discours compassionnel où du coup ça sature un peu les médias qui se concentrent sur l'arrivée des officiels. On voit Schulz à la télé faire des discours, etc. Et puis la réalité d'une rencontre en fait, où il y avait des débats qui n'étaient pas du tout de cette teneur-là et qui étaient beaucoup plus critique par rapport aux politiques européennes et qui du coup se retrouve ben, un peu au second plan, quoi, puisque les têtes d'affiche retiennent plus l'attention des médias. Donc il y a eu, voilà, et en même temps, une demande de la part des rescapés et des familles de rencontrer les autorités. Du coup, eux n'étaient pas forcément contre qu'elles viennent ce jour-là. Et en même temps, ça n'a pas été porté par les associations de manière à ce que ce soit les rescapés et les familles qui soient au premier plan, quoi, et à ce que leurs paroles soient vraiment portées dans les médias. Donc du coup, ils ont un peu fait de la figuration dans les cérémonies organisées par les autorités, quoi. Voilà. Enfin. Donc du coup, ça a clashé. Donc du coup, il y a l'association qui est la plus investie sur ces questions-là, Lampedusa, qui a claqué la porte de l'organisation du festival aussi.
Pendant le festival, tu veux dire,
Avant, avant.
avant,
Oui,
oui.
oui. Le jour même, il y a des commerçants qui ont baissé leur rideau pour dire nous, ce qu'on préfère, c'est le silence. C'est-à-dire, on ne participe pas à ce truc-là. Les pêcheurs ont refusé de participer.
Dans une.
Alors que les pêcheurs, c'était les premiers à être arrivés sur le lieu du naufrage, quoi.
Et oui, c'est eux en fait. C'est eux. Ça arrive souvent que ce soit eux un peu les premiers intervenants ou
Ouais,
ceux qui vont sortir pour tenter quelque chose quoi.
ouais. Ouais,
Ah, donc il y a quand même une forte réaction en fait, un peu à une mascarade politico-médiatique.
oui. Mais il y a eu effectivement un certain nombre d'organisations, notamment Archi, qui étaient pour rencontrer les autorités. Et dans cette logique d'infléchir à la marge, dire voilà, pour les réfugiés, il faut qu'on crée un corridor humanitaire, enfin un moyen légal d'accéder au territoire européen à partir de l'Afrique du Nord. Et il faut qu'on travaille là-dessus. Et il faut que les moyens de sauvetage en mer soient renforcés et non pas diminués, quoi. Sauf que les décisions européennes, c'est que même ça.
Et en plus, c'est au même
Même
moment.
ça, ils l'ont pas, quoi.
Et c'est au même moment, en fait, où il y avait ce festival donc qui se passait et où la politique européenne a été en train de changer et qu'elle virait vers un retrait de Mare Nostrum et un renforcement de Frontex.
Oui, on a les
Donc,
premières décisions qui sont prises fin août,
on.
et puis on a un sommet européen, un conseil européen des ministres de l'Intérieur qui se passe le 10 octobre juste après et qui acte ça, oui.
Voilà, c'était une émission qui se termine. Merci à Philippe, Lucie, Camille et Camille pour avoir discuté et participé à cette émission sur Lampedusa. Si vous voulez plus d'informations, rendez-vous sur le site lampedusa.wordpress.com. Merci, à bientôt.